Chapitre 3. François Véru, dit le Chambrillon, que nous avons laissé dans le premier chapitre de cette histoire, enjambant la palissade du parc des Sapinières et se dirigeant vers le château, bien qu'il eût une bonne charge, car le chevreuil tué par M. Horace pesait lourd et appartenait à la grande espèce, François Véru, disons-nous, se mit à courir. Cependant, il ne prit point par la grande allée, qui était la route la plus courte, mais par une allée tortueuse qui suivait assez longtemps la haie de clôture et arrivait jusqu'à un petit chalet rustique couvert de chaume et dont les fenêtres étaient garnies de verres de couleur. Un filet de lumière multicolore passait au travers et les spirales grises d'un feu de cheminée s'échappaient du faîte pour monter dans le ciel d'un bleu cendré déjà tout constellé. Quand il fut à 10 pas du chalet, François cessa de courir, s'arrêta une minute pour reprendre haleine, puis s'avança doucement sur la pointe du pied et colla son visage à l'un des carreaux de la fenêtre. À l'intérieur, le chalet était de forme ronde. C'était un joli salon de lecture et de travail, meublé en tant bambou, tendu de coutils et au milieu duquel on voyait une table ronde chargée de livres, de journaux, de mondes, de revues élégantes et d'une boîte à ouvrages. Un métier à tisser était auprès. Devant la table, Mademoiselle Denise de Méreuil était assise et lisait. Le Chambrillon se prit à la contempler sous le charme d'une muette extase. C'était une grande jeune fille, à la taille souple et nerveuse, aux épaules larges, au front développé, que couronnait une abondante chevelure blonde, non point de ce blond cendré, chanté par les poètes, mais de ce blond à reflets fauves, qui rappelle le bronze et le cuivre, et que l'Antiquité prêtait aux cheveux de Junon. De grands yeux bleus, un nez aquilin, des lèvres plus rouges que roses, une bouche garnie de dents éblouissantes, un cou long et flexible d'une irréprochable blancheur, tels étaient les principaux traits caractéristiques de la beauté de Mademoiselle de Méreuil. Elle avait une voix harmonieusement timbrée et un adorable sourire ingénu et mutin. Qu'elle est belle, pensa le Chambrillon, dont le front s'assombrit. Puis il frappa doucement au carreau de la fenêtre. Denise leva la tête, se fit un abat-jour de sa main, reconnut le Chambrillon et lui sourit. Le Chambrillon entra, son chevreuil sur les épaules. « Ah !» dit la jeune fille joyeuse. « Ah, tu as fait un beau coup là, François !»« Ce n'est pas moi, mademoiselle, c'est Monsieur Horace !» Denise rougit un peu. « Et pourquoi donc n'est-il pas venu lui-même me l'apporter ?» dit-elle. « Je ne sais pas, » répliqua le Chambrillon. « L'oreille a pourtant dû lui tinter aujourd'hui, » continua la jeune fille, « car ma tante et moi, nous avons parlé de lui. Mais assieds-toi donc, François. »« Oh, c'est pas la peine, mademoiselle. Alors vous avez parlé de M. Horace avec Mme Gertrude ?»« Oui, certes, et tu ne sais pas ce qui a été convenu ?» « Non ?» fit le Chambrillon avec curiosité. « Eh bien, il paraît que nous allons voyager, ma tante et moi. »« Quand cela ?» demanda vivement François Véru, dont la voix s'altéra. « Ben, au printemps, dans 4 mois, nous irons en Suisse. Monsieur Horace viendra nous y rejoindre. Et alors, vois-tu, nous nous marierons, car il m'aime bien, et moi aussi. » « Ah ! » fit le Chambrillon, « vous vous marierez ?»« Et il paraît que dans le pays où nous sommes, » continua naïvement la jeune fille, « il a couru de vilaines histoires sur le père d'Horace, mais que ce sont des calomnies. Seulement, pour ne pas faire jaser, nous nous marierons bien loin, et si nous trouvons une jolie habitation, soit au bord du lac de Genève, soit dans la Suisse allemande, « Vous y fixerez, n'est-ce pas ?» dit François Véru avec tristesse. « Oui, Mais nous t'emmènerons avec nous, mon bon Chambrillon, reprit la jeune fille, qui prit la main du paysan et la serra doucement. Tu voudras bien venir avec nous, n'est-ce pas? François Véru ne répondit pas. Il baissa les yeux et essuya furtivement une larme du revers de sa manche. Puis tout à coup, « Oh, excusez-moi, mademoiselle, mais je suis un peu pressé ce soir. Monsieur Horace m'attend. Je vais porter le chevreuil à la cuisine et je m'en vais. » Et sans donner à la jeune fille le temps de le retenir, François Véru s'en alla brusquement et reprit sa course vers le château. « Singulier garçon, murmura Denise, toujours triste, toujours préoccupé, ne répondant jamais que d'un air distrait. » Puis elle reprit son livre et ne songea point à refermer la porte que le chambrillon en sortant avait laissée ouverte. Quelques minutes s'écoulèrent, puis soudain des pas firent crier le sable des allées auprès du chalet. D'abord, Denise crut que c'était le chambrillon qui revenait. Puis elle leva la tête et jeta un cri d'effroi. Un homme, qui lui était inconnu, venait de s'arrêter au seuil du pavillon. Il était armé d'un fusil qu'il portait en bandoulière, mais sa veste de chasseur et sa casquette de velours rassurèrent tout aussitôt Mademoiselle de Méreuil, d'autant plus qu'il se découvrit et salua avec respect. « Mille pardons, mademoiselle, dit-il, si j'ose me présenter ainsi sans avoir l'avantage d'être connu de vous. » Denise s'était levée, un peu interdite. Cependant, elle répondit sans trop d'embarras, « Vous vous êtes sans doute égaré en chassant, monsieur, et comme la haie du parc est en mauvais état. »« Non, non, mademoiselle, interrompit l'inconnu, je suis parfaitement où je suis et à qui j'ai l'honneur de parler. » Denise s'inclina et attendit que cet étrange visiteur voulût bien s'expliquer. « Mademoiselle, continua-t-il en entrant dans le pavillon, je me nomme Hector Clapier et je suis votre voisin de campagne. »« Monsieur, répliqua Denise, oh, votre nom ne m'est point inconnu, et je crois même que c'est vous qui nous avez vendu les sapinières. »« C'est mon père, mademoiselle. » »« Alors, reprit la jeune fille, « veuillez m'excuser si je vous renvoie à ma tante, Madame Gertrude, qui s'occupe de nos affaires, car moi, je n'y entends absolument rien. »« Non, pardonnez-moi, mademoiselle, c'est à vous que je désire parler. »« Ah, il ne s'agit donc pas d'une affaire. »« D'une affaire assez grave, dit le gros garçon joufflu, qui prit un air sémillant, mais d'une affaire qui ne regarde que vous. » « Mais monsieur, en vérité, monsieur Hector Clapier avait l'aplomb du bourgeois riche en coupe de bois et en labourage. Il déposa son fusil dans un coin et s'assit, avant que Denise eût songé, tant elle était émue, à lui offrir un siège. Puis il continua, tandis que toute bouleversée, elle demeurait debout devant lui. « Oh, je ne voudrais pas, mademoiselle, vous rappeler des souvenirs pénibles. Cependant, vous devez savoir à quoi vous en tenir sur l'opinion du pays où nous sommes, touchant votre malheur. » Ces mots stupéfièrent Denise, mais en même temps, ils lui mirent au cœur une âpre curiosité. « Mais à part le malheur que j'ai eu, dit-elle, de perdre mes parents quand j'étais encore au berceau, je ne vois pas, monsieur, en quoi je puis si fort intéresser le pays où nous sommes. C'est un pays rempli de préjugés, mademoiselle, préjugés que je ne partage pas, moi, mais enfin, dans la contrée, on fait assez volontiers peser sur les enfants la faute des parents. Mais je ne vous comprends pas, monsieur, dit la jeune fille avec une froide dignité, que l'on m'a toujours élevée dans le respect de mes parents. Ben, cependant, il n'est pas possible que vous ignoriez leur fin tragique, dit Hector Clapier, qui se montra fort étonné. On m'a dit qu'ils étaient morts subitement. Devant cette naïve croyance, un autre homme fut rentré sous terre. Mais le fils Clapier était un butor sauvage et cruel, et il répliqua. « Ben, on vous a trompé, mademoiselle. Votre père s'est suicidé. » Denise jeta un cri. « Oui, après avoir tué votre mère, acheva le bourreau avec un sang-froid qui méritait le dernier supplice. Denise s'appuya au mur pour ne point tomber. Mais Dieu, sans doute, en ce moment, lui donna du courage, car elle ne s'évanouit point et regarda M. Hector Clapier en face. Monsieur, lui dit-elle, jamais on ne m'a dit cela. Je suis tenté de croire que vous mentez. Oh, je dis la vérité, mademoiselle. Et dans quel but atroce venez-vous me faire une semblable révélation? S'écria la jeune fille indignée. Oh, je vous dis cela, mademoiselle, parce que je blâme l'opinion qu'on a de vous et que je lui veux donner un éclatant démenti. Denise, frappée de stupeur, regardait cet homme avec égarement. Il poursuivit. Mon père est riche, j'aurai un jour plus d'1 million. J'ai songé à faire taire tous les carcans de la province et à devenir votre protecteur. Mon protecteur? Fit-elle avec un accent voisin de la folie. Oui, j'ai l'honneur de vous demander votre main. Oh, ce fut le dernier coup. Denise, épouvantée, se laissa tomber sur son siège et cacha dans ses mains son front que la honte et l'indignation rougissaient. Monsieur Hector Clapier demeura calme et souriant, et s'imagina pendant 10 secondes que la pauvre enfant allait s'agenouiller devant lui pour le remercier de sa générosité. Mais cette illusion dura peu. Denis se redressa, sublime de colère et de douleur. Monsieur, s'écria-t-elle, si vous ne sortez pas à l'instant, mon fiancé ira demain vous souffleter sur les 2 joues. Votre fiancé? Balbutia Hector abasourdi. Oui, monsieur Horace de Verne, que j'aime et qui doit être mon mari. Mais Hector, un moment courbé sous l'éclatante indignation de la jeune fille, se redressa à ce nom. Un éclat de rire bruyant sortit de sa gorge. Ah, par exemple, s'écria-t-il, voilà un mariage qui sera superbe. Mais vous ne savez donc pas non plus que M. Horace de Verne est le fils de l'amant de votre mère. Denise jeta un cri et tomba à la renverse sur le parquet. En ce moment aussi, un homme entra comme la foudre dans le pavillon, et cet homme, d'un revers de main, abattit Hector et le foula aux pieds avec fureur. C'était le Chambrillon. Chapitre 4. 2 heures plus tard, Mademoiselle Denise de Merueil, en proie à une fièvre délirante, se trouvait en danger de mort. Madame Gertrude et Horace, prévenus en toute hâte, pleuraient, agenouillés à son chevet. Un homme, debout dans un coin, pâle comme un spectre, l'œil rouge et sec, semblait personnifier le désespoir. Le médecin, qu'on était allé chercher en toute hâte à la ville voisine, arriva, examina la malade, qui riait et pleurait tour à tour et qui était en proie à une fièvre ardente. Avant demain, dit-il, je ne réponds de rien. Seule une grande joie peut la sauver. Le Chambrillon entendit ces mots. Alors il quitta son immobilité de statue et vint droit à Horace, auquel il prit brusquement la main. Venez avec moi, dit-il. Son accent était dur, impérieux, il avait quelque chose de dominateur qui impressionna vivement M. de Verne. Horace le suivit. Le Chambrillon l'entraîna dans le parc et s'appuya à un arbre. Monsieur Horace, lui dit-il, Mademoiselle Denise mourra si elle n'est pas votre femme. Mais c'est désormais impossible, répondit Horace avec l'accent du désespoir. Si cela se peut, si je parviens à faire triompher la vérité. Ah, fit le jeune homme avec explosion, tu crois comme moi que mon père était innocent? Mais comment le prouver? Je le prouverai. Et au bout de 14 ans, acheva le Chambrillon, dont un sanglot couvrit la voix, il faudra bien que la lumière se fasse. La lumière? Oui, la lumière, monsieur Horace. Et j'ai été lâche et cruel de ne point parler plus tôt. Hélas, si vous saviez. Mais que veux-tu dire? Mais tout un pays a été trompé. Votre père est innocent et monsieur de Méreuil n'a point étranglé sa femme. Oh, par exemple, murmura Horace en courbant la tête. Mais monsieur et madame de Méreuil ont été assassinés, s'écria le Chambrillon. Horace, à son tour, étouffa un cri. Mais c'est la vérité, dit le Chambrillon. Oh, j'étais qu'un enfant alors, mais les terribles événements de cette nuit sont demeurés gravés dans ma mémoire. La sueur perlait au front du jeune homme. Il regardait le Chambrillon avec une sorte de stupeur. Celui-ci continua. Voyez-vous, monsieur Horace, la demoiselle, vous et moi, nous sommes tous les trois de pauvres êtres qu'on a mis en quarantaine. Il faut en sortir. On m'appelle le Chambrillon, moi, parce que depuis l'âge de 14 ans, je vis seul ici, au milieu des bois, et que jamais je n'ai demandé une fille en mariage. Et le Chambrillon soupira. Ah, reprit-il, ne croyez pas que moi aussi j'aurais aimé une demoiselle maisonnette dans le village, avec une femme assise à mon foyer et les enfants qui auraient joué sur la porte. « Eh bien, dit Horace, pourquoi ne te maries-tu pas? Tu es bon ouvrier, François. Tu as un peu de bien. Tout le monde sait que tu es un honnête homme. Avec ça, on trouve toujours une fille sage et travailleuse qui consente à devenir la mère de vos enfants. » Mais le Chambrillon, courbant la tête, répondit d'une voix sourde. « Oh, quand vous saurez l'histoire que je vais vous dire, monsieur Horace, vous comprendrez pourquoi je ne suis point marié. » « Elle est donc bien terrible, cette histoire. Je n'avais que 8 ans alors, mais je sens, en y songeant, mes cheveux se hérisser. Mon père travaillait à la journée au château des Sapinières en qualité de jardinier. Il travaillait déjà du temps des anciens propriétaires. Le père Clapier l'avait gardé, puis après, monsieur de Méreuil. Il était veuf et il ne voulait pas se remarier. Nous faisions notre soupe nous-mêmes. J'allais à l'école du village et j'avais déjà ces goûts d'indépendance qui ont fait de moi un Chambrillon. Mon père, qui se nommait Jérôme, était sombre, taciturne, d'humeur farouche, depuis la mort de ma mère qu'il avait beaucoup aimée. Il était âpre à l'argent, comme un marchois qu'il était. Car il était venu de ce pays-là 20 ans auparavant à la suite d'une bande de maçons. Il avait quitté son premier état pour se faire jardinier, mais le regrettait souvent en disant que les maçons gagnent de meilleures journées. Il avait de mauvais instincts à l'égard des bourgeois, surtout quand il avait bu, et il buvait souvent. « Pourquoi donc, disait-il souvent en frappant du poing sur la table d'un cabaret, les bourgeois ne travaillent-ils pas comme nous et ont-ils leur vie toute gagnée? Dieu n'est pas juste. » Il se faisait toujours lire les livres mauvais où il était question des droits de l'homme et jamais de ses devoirs, car il ne connaissait, lui, ni A ni B, mais il fréquentait le cabaret de la vieille Maltèque. Ah oui, c'est pas cette médiante mendiante qui vient quelquefois au Saussay? Justement! C'est les Clapiers qui l'ont ruiné quand son homme, qui était braconnier, est mort en prison. En ce temps-là, elle tenait un cabaret où quelques mauvais gars se réunissaient le soir, parlaient politique et lisaient un tas de livres dans lesquels on promettait au pauvre monde que le jour était proche où chacun aurait 10 arpents de terre et de la vigne et un pré qui mangerait du pain blanc tous les jours. Et mon père écoutait tout cela. Et tout en l'écoutant, il buvait, et quand il était ivre, il cassait tout, ou bien se prenait de querelle et se battait. Il a été dur et farouche. Et un seul homme parvenait à le maîtriser quand il voulait, c'était M. Clapier, qu'on n'appelait alors encore que Maître Clapier. Celui-là aurait fait passer mon père dans le feu, et la raison de cette influence était bien misérable, allez. Mon père avait acheté un petit bien en forêt. Pour cela, il avait eu besoin d'argent, et Maître Clapier lui avait prêté 50 pistoles à un taux énorme pour de pauvres gens comme nous. Les intérêts étaient durs à payer. Mon père avait beau travailler, il n'y arrivait pas. Le père Clapier avait une première inscription au bureau des hypothèques. Ils étaient si bien mis en règle qu'ils pouvaient déposséder mon père dans les 24 heures. Cette pensée le rendait fou. Quelquefois, quand il était pris de boisson, il entrait en fureur et s'écriait « Oh, je crois que je ferais un crime pour rien de voir mon père Clapier !» Dans notre pays, tout le monde braconne. Mon père, comme les autres, s'en allait le soir à l'affût. Il fut pris une nuit dans les bois de l'État et on lui dressa un procès-verbal. Oh, monsieur le baron de Béreuil n'avait pas encore acheté les sapinières. Le tribunal de Romorantin se montra sévère. Il s'appuya sur une condamnation précédente pour le même délit et après avoir ordonné la confiscation de l'arme, il condamna mon père à 2 mois de prison et 100 francs d'amende. Quand il sortit de prison, le père Jérôme, c'était ainsi qu'on l'appelait, trouva un huissier qui instrumentait dans notre maison et venait saisir notre pauvre ménage. Moi, j'étais là tout seul et je pleurais. Heureusement que mon père n'avait plus de fusil, car il aurait tué l'huissier qui venait réclamer l'amende et les frais du procès. Mais le malheur voulut qu'un homme, un chasseur, passât par là. C'était Maître Clapier. Il emmena mon père et lui dit « Oh, je veux pas laisser vendre ta maison, et je vais payer. » Et il paya, en effet. Mais il fit signer à mon père un papier dans lequel celui-ci se reconnaissait débiteur de 45 louis exigibles à la première réquisition. L'huissier s'en alla, mais à partir de ce moment, l'humeur de mon père devint plus farouche encore, et souvent, je l'entendis tenir des propos sinistres. Quand il rencontrait Maître Clapier, celui-ci lui disait « Je te laisse bien tranquille, mon père Jérôme, mais faudra voir pourtant me payer. » Alors le désespoir s'emparait du malheureux. Il abandonnait son travail, s'en allait au cabaret et se prenait de vin. Cependant, quand il me regardait, son visage s'adoucissait et les larmes lui venaient aux yeux. Oh, je vous jure qu'il m'aimait bien, moi, monsieur Horace. Il était méchant à tous, mais il devenait caressant et bon pour moi. Et peut-être que s'il ne m'avait pas tant aimé. » Le chambrillon s'arrêta un moment, et le jeune homme vit une grosse larme silencieuse se rouler sur sa joue. « Mais, reprit-il, oh, il faut pourtant que je vous raconte cette terrible nuit du 29 décembre 1844. « Ah, dit Horace, n'est-ce pas la nuit fatale ?»« Oui, écoutez. » Et le chambrillon raffermit sa voix émue et continua. Mon père travaillait dans le parc du château. Il éclaircissait une jeune sapinière le jour où M. le baron de Méreuil revint de Paris. Le baron était préoccupé, un peu pâle, et un valet de chambre raconta à mon père qu'il s'était querellé avec Mme la baronne. Cependant, il vint trouver mon père dans le parc et lui dit « Tu vas aller à la meunerie et tu diras à M. Clapier que ce soir, après mon dîner, je monterai à cheval et lui irai porter son argent. » Mon père quitta son ouvrage, passa son bourgeron sur sa veste, me prit par la main et m'emmena à la meunerie. Je vous l'ai dit, j'avais alors 8 ans. Des sapinières à la meunerie, comme vous savez, il y a eu plus d'un quart d'heure de lieue à travers champs. Comme nous arrivions dans la basse-cour du père Clapier, nous le trouvâmes qui nettoyait son fusil sur la dernière marche de l'escalier. « Ah, te voilà, dit-il, est-ce que tu m'apportes de l'argent ?»« Moi, non, dit mon père, qui devint tout tremblant, tant son créancier lui inspirait d'effroi, mais je viens vous dire que monsieur le baron vous en apportera. »« Quand ?»«
Ce soir. »
« L'argent est toujours le bienvenu, » grommela maître Clapier, dont le visage s'éclaira et rayonna subitement de bonne humeur. Et en même temps, il me frappa sur la joue amicalement. « Mais il grandit joliment, ce petit yoga !» Mon père, sa commission terminée, fit mine de tourner les talons, mais Clapier le retint. « Mais va-t'en boire un coup à la cuisine, » dit-il. « Faut que je te parle. » Jamais le père Clapier n'offrait un verre de vin. Mon père en fut comme étonné et il crut n'avoir pas bien entendu. Mais le marchand de biens entra dans la cuisine le premier et dit « Hé la Jeannette, donne-nous une bouteille de blanc de Saint-Jean de B. » La servante, non moins étonnée, descendit à la cave. Alors, Clapier dit à mon père, « J'ai une soif de tous les diables et nous allons trinquer ensemble. » La Jeannette revint avec deux bouteilles de vin au lieu d'une. « Donne trois verres, » dit le maître. « Oh, excusez mon bourgeois, » fit mon père, « faut pas faire boire cette jeunesse, ça vient toujours trop vite. »« Bon, » dit le père Clapier, « ce petit blanc-là se boit comme de l'eau sucrée. » Et il me tendit lui-même un verre. Nous buvions de l'eau à la maison. Quand mon père voulait du vin, il allait au cabaret. Mais moi, je n'avais jamais goûté à ça, rouge ou blanc. Et je vidais pourtant le verre d'un trait. Le père Clapier s'était assis au coin du feu et il jasait avec mon père, lui parlant de la récolte dernière, des coupes de bois, de ses foins, lui faisant en un mot un étalage naïf et brutal de ses richesses. Les deux bouteilles y passèrent. « C'est drôle, » dit le père Clapier, « j'ai encore soif. Allez, va tirer du vin, la Jeannette. » Quand mon père buvait, il ne songeait plus à s'en aller. Tandis qu'il devisait avec maître Clapier, les gens de la basse-cour, car on faisait valoir à la meunerie, arrivèrent un à un. La Jeannette dressa la table et tailla la soupe dans les assiettes. « Tu vas souper ici, Jérôme, puisque te voilà, » dit maître Clapier. Et il me fit asseoir lui-même sur un escabeau. Le vin m'avait monté à la tête, tout tournait autour de moi. Comme les domestiques achevaient de souper, on entendit le pas d'un cheval dans la cour. C'était M. de Méreuil qui arrivait. « Allons, petitot, » me dit mon père, « il faut nous en aller. » Il trébuchait en se levant, mais il avait hâte de partir. La générosité de maître Clapier l'effrayait. Comme nous allions sortir, une porte s'ouvrit dans le fond de la cuisine et maître Clapier passa sa tête au travers. « Jérôme, dit-il, ne t'en va pas, j'ai à te parler. Jeannette, donne donc une autre bouteille à Jérôme. » Soit inadvertant, soit calcul, le père Clapier ne referma point cette porte qui donnait dans la salle à manger. Or, la salle à manger de la meunerie était en même temps le cabinet d'affaires du marchand de biens. Il y avait dans un coin un vieux bureau dans lequel il serrait son argent et ses papiers. Et ce fut dans la salle à manger qu'on introduisit M. de Méreuil. Et par la porte ouverte, mon père, qui s'était remis à boire, le vit poser devant lui, sur le bureau, une lourde sacoche et un portefeuille. Il n'y avait plus personne dans la cuisine. La Jeannette elle-même, après avoir lavé la vaisselle, était allée se coucher. Monsieur de Merueil ouvrit la sacoche et mon père, à qui l'ivresse donnait le vertige, le vit étalé sur la table des rouleaux d'or. Le verre de vin que j'avais bu m'avait, je vous l'avais dit, fort étourdi, si bien que je ne voyais plus les objets et qu'à travers une sorte de nuage et que tout semblait tourner autour de moi. Cependant, je me souviens fort bien qu'après avoir étalé de l'or, M. de Merueuil compta l'une après l'autre de grosses liasses formées par de petits carrés de papier qui ressemblaient à des images et que j'ai su plus tard être des billets de banque. Puis le père Clapier serra tout cela dans son tiroir, qu'il ferma à double tour, et alors seulement Madame Clapier entra. Elle fit la révérence au baron et se mit à causer avec lui, ce qui permit à Maître Clapier de revenir dans la cuisine un moment et de parler bas à mon père. Mon père était ivre et ses yeux brillaient d'un sombre éclat. Quand Maître Clapier eut fini de lui parler, il se leva brusquement et me dit « Viens nous-en, petiot !» Et il m'entraîna hors de la cuisine. Nous traversâmes la cour, le jardin, et nous nous trouvâmes bientôt au fond du bois. Mon père marchait comme s'il avait eu les gendarmes à ses trousses. Il me prenait dans ses bras pour sauter les fossés. Oh, nous passions comme des fantômes à travers les halliers et les broussailles. Enfin, nous arrivâmes à la maisonnette. Mon père alluma du feu, s'assit devant, prenant sa tête dans ses mains. Oh, il avait l'air si farouche que je me tenais derrière lui et n'osais lui parler. Couche-toi, me dit-il brutalement. J'obéis, et j'étais tellement étourdi que je ne tardais pas à m'endormir. Une vive lueur m'éveilla en même temps qu'un bruit de voix, mais je n'osais pas écarter les rideaux du lit. Mon père avait allumé une chandelle de résine, et il causait avec un homme dont je reconnus aussitôt la voix. C'était Maître Clapier. Oui, disait celui-ci. « Je te rendrai ton billet et tu ne redevras plus rien du tout. En outre, je te donnerai deux de ces rouleaux d'or que tu as vu briller sur ma table. » Mon père répondit d'une voix sourde que l'ivresse enrouait. « Vous êtes donc le démon lui-même !» Maître Clapier se mit à rire, puis après un silence, il ajouta « Autrement, mon garçon, il faut attendre à te voir dépossédé sous 8 jours. Je suis en règle et je te mettrai après le jeune mon père, qui est le meilleur huissier de la Romorantin. » Ce nom de mon père exaspéra mon père. Ce mon père, il avait alors 35 ans. Il en a 50 aujourd'hui. Il a été huissier 15 ans et il a jeté l'épouvante et le deuil dans plus d'une famille de pauvres gens. Il ne faisait pas son métier, il le savourait. Là où un des confrères perdait 6 semaines, il arrivait à vous mettre sur la paille en 15 jours. Malheureusement pour lui, il était ivrogne et débauché. Ce qu'il gagnait, il le mangeait. Il a fini par être révoqué, puis il a vendu son étude, puis il est tombé dans la misère. Aujourd'hui, il est bien heureux de manger le pain des Clapiers, dont il est devenu le garde particulier. Et ce nom de mon père causa donc une telle terreur à mon père qu'il se leva et sortit. Maître Clapier le suivit. Que se passa-t-il encore entre eux? Dieu et Maître Clapier seuls le savent. L'ivresse m'étreignait et ne tarda point à me clore de nouveau les yeux. Mais une seconde fois, je fus éveillé en sursaut. C'était mon père qui rentrait. Cette fois, il était seul et, à sa pâleur, je compris qu'il n'était plus ivre. Il avait sa blouse déchirée et portait en bandoulière la sacoche que j'avais vue 2 ou 3 heures auparavant placé par M. de Méreuil sur le bureau de Maître Clapier. J'écartai brusquement les rideaux du lit, et comme je le regardais avec terreur, il attacha sur moi un œil égaré par la folie. « Regarde-moi bien, me dit-il, regarde-moi, car tu ne me reverras plus. » Puis il souleva la pierre qui se trouvait devant la cheminée dont le feu s'était éteint, et il se mit à creuser un trou avec ses mains et ses ongles. Quand ce trou fut assez grand, il y plaça la sacoche et laissa retomber la pierre par-dessus. Après quoi il se releva, accourut vers le lit, me prit dans ses bras, et je sentis couler des larmes de feu sur mon front. « Tiens, petit, me dit-il, quand tu seras un homme, tu soulèveras cette pierre et tu prendras ce qu'il y a dessous. C'est le sang de ton père. » Il m'étreignit une dernière fois, étouffa un rauque sanglot et s'enfuit. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Mais on ne montra pas de l'idée, voyez-vous, monsieur Horace, qu'il est allé se noyer dans la Saule qui coule à une lieue d'ici. Le remords s'était emparé de lui, le crime à peine accompli. Monsieur Horace de Verne avait écouté cet étrange récit sans interrompre le chambrillon. Quand ce dernier eut fini, Horace demeura pensif un moment, puis il dit « Ainsi, tu es convaincu que Monsieur de Méreuil et sa femme ont été assassinés par ton père ?»« Mon père ne fut que l'instrument, monsieur, » répondit le chambrillon d'une voix sourde. « Le véritable assassin est Maître Clapier. » « Mais malheureux, si ton père n'était pas mort !»« Oh !» murmura le chambrillon. « C'est cette crainte-là, monsieur Horace, qui m'a jusqu'ici condamné au silence. » Et puis il y a 6 mois encore, quel intérêt impérieux avais-je à dénoncer le coupable? Vous n'étiez pas dans le pays, la demoiselle était heureuse comme ça. Et cependant, parfois, le remords entrait dans mon cœur et me prenait à la gorge. Étais-je bien le maître de garder un pareil secret? Mais chaque fois qu'un aveu montait de mon cœur, il expirait sur mes lèvres. En livrant Maître Clapier à la justice, ne livrais-je pas mon père? N'était-ce pas ma propre honte? Mais hélas, tout cela est juste, murmura Horace. Mais, reprit le chambrillon en s'animant par degrés, l'heure des hésitations est passée, il faut agir. Je veux pas que la demoiselle meure, moi. Et il ajouta d'une voix plus émue, « Puisqu'elle vous aime. » Horace lui prit les mains. « Écoute-moi, François, lui dit-il, point n'est besoin de livrer cet homme à la justice. Denise te croira, et dès lors que nous importe. Ne devions-nous pas quitter ce pays maudit, aller vivre au loin, à l'étranger? Je changerai de nom, elle aussi. Nous serons heureux. » Et tu ne seras pas déshonoré. Mais, monsieur Horace, dit le chambrillon avec fermeté, la chose est impossible à présent. Pourquoi? Ah, vous ne connaissez pas les Clapiers. Cette brute qui a nom Hector s'est mis un projet en tête. Il veut épouser la demoiselle. Oh, le misérable! Et si nous nous taisons, nous, il parlera, lui. Il fera du bruit et un tel scandale que la province entière en retentira. Mais tu crois que son père le secondera? N'a-t-il pas intérêt à ce qu'on ne découvre jamais la vérité? Mais, malheureux, dit Horace, tu n'as aucune preuve sérieuse à donner à la justice. Bon, vous vous trompez, répondit le chambrillon. Et si vous me laissez le maître, vous, madame Gertrude et la demoiselle, j'amènerai le père Clapier à se livrer lui-même. » En ce moment, on entendit sur le perron du château la voix de la vieille tante qui appelait M. de Verne. Le jeune homme s'élança vers le château et le chambrillon demeura immobile, appuyé contre un arbre, étreignant son front pâle de ses deux mains. « À présent, misérable, murmura-t-il, se parlant à lui-même, à présent que tu as livré ton secret, ose donc t'avouer à toi-même que tu aimes la demoiselle. » La meunerie, cette propriété qu'habitait la famille Clapier et qui était située à une demi-lieue à peine du château des Sapinières, n'avait pas changé d'aspect depuis le jour où le baron de Merreuil en avait franchi le seuil pour la dernière fois, à cela près que tout y était vieilli, depuis les arbres du jardin jusqu'aux portes de la basse-cour et au mobilier dont aucune pièce n'avait été renouvelée. Quand une chaise se cassait, maître Clapier se bornait à dire « Oh, montez-la au grenier !» La mère Clapier avait fait faire des housses aux meubles de damas jaune du salon, qui étaient éraillés et crasseux. Ces gens-là, dont nul ne connaissait au juste la fortune, mais qui passaient pour excessivement riches, avaient fini, en vieillissant, par ériger une statue colossale à l'avarice. Leur fils avait grandi au milieu de cette gêne. On lui refusait le moindre argent, il avait eu toutes les peines du monde à obtenir un cheval, deux bassets et un permis de chasse. Maupère, l'ex-huissier, le garde-chasse, était mis à toutes les sauces. Il ratissait les allées du jardin, soignait le cheval, taillait les arbres, donnait un coup de main pour engranger les récoltes, raccommodait les planches du poulailler et les jours de cérémonie servait à table. Cet homme, tombé peu à peu dans l'abjection la plus complète, n'avait plus qu'une satisfaction, être le ministre des terribles et âpres volontés de son maître. Avec quel zèle il dressait un procès verbal, et comme il savait rançonner les fermiers et les locataires. Quelquefois, il servait de prête-nom dans les trafics usuraires du père Clapier, qui prêtait de l'argent à 11% et 9% de commission. Or donc, le jour où son fils et beau-père s'étaient lancés dans la poursuite du brocard, maître Clapier devisait tranquillement avec sa femme, au coin d'un maigre feu, dans cette petite salle à manger qui servait à la fois de salon et de cabinet d'affaires. « Il faut pourtant songer à établir notre garçon, » disait la mère Clapier. C'était une grosse femme, commune et rougeaude, curieuse et cancanière, qui riait d'un mauvais rire et se promenait par la maison avec un trousseau de clés à faire frémir un criminel. « Plaît-il ? » dit sèchement maître Clapier. « Je suis un petit peu dur d'oreille. » La mère Clapier, qui malgré son avarice n'avait pas oublié ses idées de grandeur et sa vocation pour la noblesse, reprit « Hector a 26 ans. Nous lui laissons une belle fortune et il n'y a plus d'une héritière dans le département qui ne demanderait pas mieux que... » Maître Clapier haussa les épaules. « D'abord, dit-il, on ne se marie pas à 26 ans. Ensuite, je me porte bien et je n'ai pas envie de mourir pour laisser à notre fils une belle fortune. Il faudrait pourtant bien lui donner une dot. » « Jamais, dit le marchand de biens, on n'a pas donné à moi. J'ai travaillé et ce que j'ai amassé, je compte le garder. » Comme il exprimait cette volonté qui chez lui était absolue, maître Clapier entendit marcher derrière lui. Il se retourna et vit son fils qui franchissait le seuil de la salle à manger. Hector avait le teint animé, l'œil brillant et un joli sourire bête sur les lèvres. « Eh, dites donc, le père, » fit-il d'un ton goguenard, « il paraît que vous ne voulez pas lâcher les écus. »« Je garde ce qui est à moi, » répondit brutalement Clapier. « C'est bien assez que je t'entretienne. Tu me coûtes les yeux de la tête. »« C'est ce que je me suis dit, » répliqua Hector avec insolence. « Aussi, je songe à m'entretenir moi-même. »« Soit, » fit le marchand de biens qui s'est mis à toiser son fils, avec le dédain que les gens d'affaires ont pour les oisifs. « À quoi es-tu bon ?»« À me marier. dit Hector, qui en ce moment se redressa et posa pour le torse.
Ben, fils à qui son père ne donne rien, trouve une fille qui n'a rien, répondit le père Clapier. Et comme on n'a jamais tiré du beurre de deux cailloux, allez, je t'engage à te tenir tranquille.
Sur ces mots, il se leva et prit son chapeau, un chapeau de paille brune qu'il portait en toute saison, faisant mine de s'en aller. Mais Hector le retint.
Écoutez donc le père, dit-il, je vous demande pas un sou, et j'épouserai, si bon me semble, une fille riche.
Ce mot fit tressaillir le père Clapier.
Allons donc, dit-il, les filles riches ne sont pas pour les gens qui n'ont rien.
Bien, c'est comme ça, pourtant.
Et qui veux-tu donc épouser?
La demoiselle des Sapinières.
Madame Clapier jeta un cri d'horreur.
Quant à son mari, il devint pâle comme un mort et s'élança vers la porte sans prononcer un mot. Puis, de corridor, il passa dans la cour, la traversa à grands pas et ne s'arrêta qu'au bout du jardin. Pour la première fois, peut-être depuis 14 années, cet homme avait éprouvé une émotion épouvantable. Au bout du jardin, il trouva un banc et s'assit comme épuisé. C'était pourtant un homme encore robuste que le père Clapier, en dépit de ses cheveux blancs et rares et malgré ses 60 années. Grand, sec, les mains noueuses et larges, de petits yeux gris d'une mobilité extrême, une bouche mince, ironique et qu'on eût dit fendue au couteau, de vieilles dents jaunes et déchaussées, tel était l'homme au physique. Toujours mal vêtu, il gardait avec obstination une redingote noire aussi longue qu'une soutane et un pantalon de même couleur qui laissait voir des bas d'un blanc sale et d'ignobles souliers lacés qu'on ne cirait que le dimanche. Le nom de la demoiselle des Sapinières avait été pour cet homme comme un coup de massue et sans doute, au bruit de ce nom, deux spectres sanglants s'étaient-ils dressés devant lui. Pendant quelques minutes, il demeura sous le poids d'une prostration profonde. Puis tout à coup, comme un sanglier momentanément étourdi par la balle du chasseur et qui ne se sent que blessé, il se releva, secoua la tête, haussa les épaules et laissa échapper à mi-voix cette phrase brutale.
Tout ça, c'est des bêtises.
Et il se remit à arpenter le jardin à grands pas, non plus régulièrement, comme un homme que la passion ou la terreur domine, mais avec la précision d'un homme qui pense.
Après tout, dit-il, pourquoi pas? Elle est riche, cette fille. Et qui sait la vérité aujourd'hui? Personne.
Alors il revint vers la maison. Comme il y entrait, il rencontra son fils. Hector avait repris son fusil et sa carnassière et coiffait sa casquette de chasse d'un air fort délibéré.
Où vas-tu? Lui dit son père, qui l'arrêta au passage.
Chercher fortune, répondit le fils Clapier avec insolence.
Son père arrêta sur lui un regard froid et calme qui le réduisit à l'obéissance.
« Pas avant d'avoir causé avec moi, dit-il. »
Et il l'emmena de nouveau dans le jardin jusqu'à ce banc où il s'était assis tout à l'heure.
« Ah, reprit-il, tu veux épouser la demoiselle des Sapinières ?»«
Oui. »
« Et veut-elle de toi, elle ?»«
Oh, je m'arrangerai pour cela. »«
Ouais, fit le marchand de biens. Et que comptes-tu faire ?»«
Madame, j'irai tout bonnement chez elle, et je lui dirai. Personne ne veut de vous, mais moi, qui suis plus courageux, j'en veux bien. »
Le père Clapier haussa les épaules.
« Mais tu as bu tort, fit-il. C'est pas comme ça qu'il faut y prendre.
Et comment feriez-vous, ricana Hector, vous qui parlez si bien. »
Moi, dit le père Clapier, c'est différent, mais ça ne te regarde pas. Alors, assis-toi ça dans la tête.
Oui.
Et si je te refuse mon consentement?
Ben, je vous enverrai des actes de respect.
Ah ah, ricana le marchand de terre. Tu vas bien, toi, quand tu t'y mets. Et si je te déshérite?
Ces derniers mots produisirent sur Hector l'effet d'une douche.
« Oh ! » fit-il, « à qui donc laisseriez-vous votre bien ?»«
À personne. »«
Ben vous l'emporterez pas, cependant. »« Peut-être, et d'ailleurs, je suis solide, va. »«
Oui, mais vous ne serez pas éternel. »«
Je trancherai. » D'ailleurs, dit le père Clapier, je mangerai mon bien au besoin.
Hector partit d'un éclat de rire peu respectueux pour son père.
Ah non, dit-il, je vois que vous voulez plaisanter. Vous mangez votre bien, papa, mais autant vous proposer de mourir de faim.
Le père Clapier était un de ces hommes qui ne vont jamais droit au but.
Mais enfin, dit-il, si la demoiselle veut de toi, où trouveras-tu de l'argent pour les frais du mariage?
J'en emprunterai.
Mais sur quoi?
Sur la dot de ma femme, donc.
Oh, c'est bien ça, fit le père Clapier, qui se radoucissait par degrés. Mais c'est pas assez encore.
Ah ah, mais alors, que faut-il donc faire?
Et si tu te maries sans que je te dote, on jasera dans le pays.
Ça c'est vrai, mais qu'est-ce que ça vous fait?
Oh, dit naïvement le marchand de biens, j'aime encore mieux qu'on jase après tout que de donner mon argent, mais peut-être pourrions-nous arranger tout ça.
Mais voyons, je ne demande pas mieux.
Nous disions donc que tu avais besoin de mon consentement.
« Oui.
Eh bien, si en échange, tu me donnais un reçu de 100 000 francs que tu déclarais avoir reçu de moi ?»«
Vous êtes un fier homme, papa, murmura Hector, mais ça m'est encore égal, si vous ne m'entravez pas dans mon idée. »«
Attends encore, petit, continua le vorace marchand de biens. La demoiselle a une 100aine d'arpents de bois. » qui sont enclavés dans les nôtres.
Eh bien, fit Hector en fronçant le sourcil.
C'est un mauvais bois, continua Clapier d'un ton dédaigneux. Ça vaut pas 100 francs l'arpent.
Oui, mais c'est toute essence de chêne et de hêtre, se récria Hector, qui déjà défendait comme sienne les propriétés de Mademoiselle de Méreuil.
Oh, ça vaut pas cher.
Eh bien, qu'est-ce que ça vous fait?
Oh, c'est uniquement pour te faire observer que tu ne fais pas un grand sacrifice.
Hein? Dit Hector. Est-ce que vous voudriez m'acheter ces bois?
Pour m'arrondir.
Eh bien, dit Hector, nous verrons ça. On les fera estimer et si nous sommes d'accord. Le père Clapier jeta à son fils un regard d'une intraduisible ironie.
Je croyais que tu étais moins bête, lui dit-il.
Comment donc ça, le père?
Mais c'est moi que je te demande, c'est ma commission, car j'en veux une, moi.
Une commission, pourquoi?
Dame, si tu te maries, c'est que je voudrais bien.
D'accord.
Et si je veux bien? C'est comme qui dirait que je te donne un coup d'épaule, donc il me faut une commission.
Hector eut un gros rire qui eût blessé de la part d'un fils tout autre père que le père Clapier.
Faut convenir, papa, dit-il, que vous êtes pire qu'un Orléanais en fait d'argent. Non seulement vous ne me donnez rien, mais il faut que je vous donne, moi.
Eh, c'est toujours comme ça, mon garçon, dans notre pays, ricana Clapier.
Tiens, vois donc notre cousin, le père Janisset de la Motte-Beuvron. Eh bien, il n'a pas donné un sou de dot à sa fille,
mais il se fait nourrir par son gendre, qui est un malheureux bureaucrate.
Eh bien, papa, dit Hector, si vous voulez une commission, il faut la gagner.
Mais comment cela, mon garçon?
Ben, faut aller pour moi demander la demoiselle.
Mais à qui?
Eh bien, à sa tante.
Et où donc ça?
Ben, aux sapinières.
Le père Clapier pâlit. Jamais, dit-il. Et il se leva brusquement. Allez, je vais me coucher, ajouta-t-il en s'en allant.
Quelle drôle de chose, murmura Hector quand il fut seul dans le jardin. Je ne répondrai pas que mon père n'eût fait dans le temps quelques canailleries à ceux des sapinières. Oh, j'ai même toujours eu dans l'idée qu'il avait reçu deux fois son argent, et je crois que le chambriot en sait plus qu'il ne veut dire. Sur cette réflexion, Hector Clapier quitta le jardin à son tour. Mais au lieu de rentrer à la meunerie, il s'en alla du côté des bois. Une heure après, comme nous l'avons vu, il faisait à Denise cette sotte déclaration, lui apprenait brutalement l'histoire de ses parents et tombait sous le rude poignet de Chambrillon au moment où la jeune fille s'évanouissait. Cette nuit-là, le père Clapier dormit mal auprès de sa corpulente épouse, que les paysans du voisinage désignaient simplement et irrévérencieusement sous le nom de la Grosse. Il dormit sur le côté gauche et eut le cauchemar que voici. Il se trouvait assis dans le grand salon des sapinières, illuminé comme pour un bal, il y avait devant lui une table chargée de papier. Assis à cette table était un homme vêtu de noir et cravaté de blanc qui paraissait être un notaire. Autour du notaire étaient plusieurs personnes et parmi elles Hector en habit de gala. Le notaire rédigeait le contrat de mariage et on n'attendait plus que la fiancée. Elle parut bientôt, souriante et vêtue de blanc. Mais comme elle prenait la plume pour signer le contrat, une porte s'ouvrit et un homme ensanglanté parut, étendant la main vers Clapier. Le marchand de biens jeta un cri et se réveilla. L'homme ensanglanté qu'il avait vu en rêve n'était autre que le malheureux baron de Méreuil. « Mais qu'as-tu donc ?» lui dit sa femme, qui s'éveilla en entendant le cri. « Oh, Dieu, je dormais !» répliqua le marchand de biens, qui essuya la sueur qui perlait sur son front jaune. « Sais-tu si le petitot est rentré ?» demanda Madame Clapier. « D'ordinaire, quand il rentre, comme il couche au-dessus de nous, je me réveille. »
« Je veux pas, » répondit Clapier,
et il se rendormit peu après. Mais le cauchemar continua. Seulement le décor avait changé. Le père Clapier se trouvait en manche de chemise, tête nue et les mains liées derrière le dos, dans une charrette qui s'en allait par la rue des Cures à Orléans et se dirigeait vers la place du Martrois. Auprès de lui était un prêtre et derrière le prêtre deux gendarmes. Comme la charrette débouchait sur la place, il s'éleva un murmure immense comme le bruit de la mer en courroux, et le père Clapier vit un océan de têtes humaines qui se mouvaient dans tous les sens. Puis, levant la tête, il aperçut les deux poteaux rouges qui forment les bras de la guillotine. Cette fois, il n'eut pas la force de crier. Heureusement pour lui, un bruit se vit au-dessus de sa tête et le pas pesant d'Hector qui s'en revenait, tout meurtri et les vêtements en lambeaux du chalet des sapinières, éveilla le dormeur. « Faut-il que je sois bête ?» se disait le matin au petit jour Maître Clapier qui se faisait la barbe devant un morceau de glace cassé. D'abord, les morts ne reviennent pas, et puis la justice y regarda deux fois avant de couper le cou à un homme qui a comme moi plus de 2 millions de fortune, et puis, enfin, il n'y a pas de preuve. « Où diable Hector est-il donc allé hier au soir ?» demandait la grosse mère Clapier,
qui se retournait paresseusement dans ses draps de toile écrue. « Il était au moins 3 heures du matin quand il est rentré. »«
Il sera allé à l'affût, » répondit Clapier. « Est-ce qu'il n'est pas levé ?»«
Ben, j'ai rien entendu là-haut encore. »
« Eh ben, faut le laisser dormir. »«
Tiens, qu'est-ce qui entre donc là ?»
Le père Clapier se mit à la fenêtre et vit un paysan qui poussait la claire-voie de la basse-cour. Le paysan n'était autre que le brocard. Le petit braconnier entra d'un pas délibéré et se dirigea vers la porte principale de la meunerie.
« Oh, drôle !» lui cria Clapier. « Oh, tu viens demander grâce, n'est-ce pas ?»
« Nennida !» répondit l'enfant.
« Mais Beaubert a fait son procès verbal et tira en prison, je te le jure bien !» continua Clapier.
« Je sais pas de quoi vous voulez parler, » répondit le brocard. « On m'a donné une lettre pour Monsieur Hector et je la lui apporte. »
Il se vit alors un bruit au-dessus de la tête de Clapier. C'était Hector qui sautait à bas de son lit et ouvrait la fenêtre.
« Et qui t'a donné une lettre pour moi ?» demanda Hector. « C'est la vieille dame des Sapinières. »
La mère Clapier entendit ces paroles.
« Oh, je veux pas qu'il épouse la demoiselle !» s'écria-t-elle. « Ce serait un beau scandale dans le pays. »«
Tais-toi donc, femme !» dit Clapier d'un ton dur. « Quand on aura crié, on se taira. »
Elle a gros d'écus, la petite, et les écus, vois-tu, ça sent toujours bon, quelle qu'en soit la provenance.